VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, Abdourahmane Dia, la présentation de cette édition de 17h30 temps universel. Nous sommes lundi 14 août 2017 au sommaire. Le Burkina Faso en deuil, une attaque terroriste en plein centre-ville de la capitale a fait au moins 18 morts. Plusieurs attaques au Mali également, des camps de la MINUSMA visés dans le nord et le centre du pays. Inondation meurtrière en Sierra Leone, le dernier bilan fait état d'au moins 300 morts à Freetown. Le président Donald Trump condamne nommément le Ku Klux Klan et les suprémacistes blancs après les incidents de Charlotteville en Virginie. Et ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Au Burkina Faso, c'est toujours l'émotion au lendemain d'une attaque dans la capitale qui a fait 18 morts. Le président Roch Kabore demande aux Burkinabés de surmonter cette nouvelle épreuve. Le point avec Issa Napon à Ouagadougou.
Les riverains et marchands de l'avenue Kwame Nkrumah, à l'instar de l'ensemble du pays, se sont levés avec la mine des mauvais jours après une dure nuit et la neutralisation quelques heures plus tôt des terroristes qui étaient vraisemblablement au nombre de deux. Les abords immédiats du restaurant Istanbul où a eu lieu l'attaque la nuit dernière étaient encore sous contrôle des forces de sécurité. La police judiciaire poursuivait encore ce matin son travail d'investigation sur les lieux. Après une première sortie matinale sur Twitter dans laquelle le président du Faso promettait une lutte sans merci contre les terroristes, Roch Makrisan Kabore a de vives voix exprimé son émotion en énumérant les différentes nationalités des victimes et demandé la solidarité de l'ensemble des Burkinabés pour y faire face efficacement. Le président burkinabé a signé dans la foulée deux décrets qui instaurent un deuil national de 48 heures, une période durant laquelle les drapeaux resteront en berne. Les 18 personnes mortes au cours de l'attaque terroriste sont de plusieurs nationalités, dont des Burkinabés, Canadiens, Turcs, Libanais, Nigériens, Coréens et Français, selon les sources concordantes. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
Et dans le Mali voisin, à Tombouctou, dans le nord du pays précisément, des tirs nourris d'armes ont été entendus vers le quartier général de la MINUSMA. Une heure après le début de l'attaque, des coups de feu s'intensifiaient vers le gouvernorat de Taoudeni, qui se trouve dans la périphérie. Et à Douenza, près de Mopti, une autre attaque a fait deux morts. Le point avec Kassim Traoré.
Au moment où toute la ville de Tombouctou vaquait à leurs occupations, vers 14h, des coups de feu ont été entendus. Des hommes armés ont attaqué le quartier général de la MINUSMA. Ce quartier contient les camps et le bureau de personnel civil. La riposte des casques bleus a été rapide. Les échanges de tirs ont été intenses vers le gouvernorat de Taoudeni, qui se trouve dans la même périphérie. La MINUSMA a même mobilisé son vecteur aérien avec des hélicos. Mais les tirs continuaient de plus belle et aucun bilan n'était disponible au moment des affrontements. Avant cette attaque, vers 5h30 du matin, c'est même lundi 14 août 2017, les camps de la MINUSMA à Douanza dans la région de Mopti ont été la cible d'une attaque coordonnée par des hommes armés non identifiés. Un premier groupe d'assaillants a tiré sur un camp de la MINUSMA à partir d'une colline adjacente. En réaction, les forces armées maliennes établies à proximité du camp ont riposté. Un deuxième groupe à pied se dirigeait vers un autre camp de la MINUSMA a ouvert le feu. Les casques bleus ont riposté et deux assaillants ont été abattus. L'attaque a fait deux victimes, un membre des forces armées et de sécurité du Mali et un casque bleu. Un autre casque bleu a été légèrement blessé. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Inondation meurtrière en Sierra Leone. Au moins 312 personnes ont été tuées à Freetown à la suite de pluies diluviennes. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
De fortes précipitations entraînaient des éboulements et des coulées de boue dans la capitale. Des rues ont été ensevelies par des rivières qui ont débordé. Certaines maisons ont été submergées par la boue et d'autres emportées par des glissements de terrain. On enregistre de nombreuses victimes et le bilan pourrait encore s'alourdir, selon un porte-parole de la Croix-Rouge, Patrick Massaqua. Des images diffusées par des médias locaux montrent des habitants traversant des rues avec de l'eau jusqu'à la taille et des corps étendus dans l'arrière-cour d'une maison. Une partie de la colline surplombant le quartier de Régène s'est effondrée sur les populations. Des habitations précaires sont souvent emportées après des pluies torrentielles. En 2015, des inondations avaient fait 10 morts et des milliers de sans-abri à Freetown.
La FAO tire la sonnette d'alarme sur la situation en RDC. Selon l'Agence des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, près de 7,7 millions de personnes sont désormais menacées de faim dans ce pays, soit 30% de plus que l'an dernier. La FAO pointe du doigt les nombreux conflits en RDC. Le président kényan Uhuru Kenyatta appelle l'opposition qui rejette sa victoire à la présidentielle de 8 août à ne pas recourir à la violence dans ses revendications. Le point avec Dili Diko.
Le président Kenyatta, vainqueur avec 54,27% des voix, a invité les populations à manifester de manière organisée. Il a rappelé qu'il s'agit d'un droit inscrit dans la Constitution et que les Kenyans n'ont pas besoin de sa permission pour manifester. La vie a repris timidement à Nairobi après les violences post-électorales qui ont fait au moins 16 morts. De nombreux Kenyans ont repris le travail. Raila Odinga, candidat malheureux à la présidentielle, a appelé ses partisans à ne pas aller travailler. Il a indiqué qu'il dévoilerait demain sa stratégie pour contester la réélection de M. Kenyatta, qui selon lui est due à une manipulation du système électronique de transmission et de comptage des voix. Ces options paraissent limitées car la coalition d'opposition NASA a pour le moment écarté de saisir la Cour suprême comme elle l'avait fait en 2013. Une autre alternative pour l'opposition serait de céder aux pressions internationales en faisant marche arrière. L'ONU, l'Union européenne et Londres, tout comme le président réélu, l'ont appelé à se tourner vers la justice.
Le chef de l'opposition zambienne, Hakainde Hichilema, a plaidé non coupable au premier jour de son procès sous forte présence policière. Emprisonné depuis avril pour trahison, il risque entre 15 ans de prison et la peine de mort. S'il est reconnu coupable, M. Hichilema est incarcéré dans une prison de haute sécurité pour avoir gêné le passage du convoi du président zambien Edgar Lungu, dont il conteste depuis un an la réélection. Le vice-président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa, considéré comme un successeur potentiel du chef de l'État Robert Mugabe, a été évacué en Afrique du Sud pour raisons médicales.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump a condamné le Ku Klux Klan et les autres groupes extrémistes qui ont voulu manifester samedi à Charlottesville, en Virginie. Le locataire de la Maison-Blanche était sous le feu des critiques pour n'avoir pas nommément cité les groupes extrémistes lors de sa déclaration initiale samedi, condamnant les violences qui ont fait un mort. Par ailleurs, la chancelière allemande Angela Merkel a condamné le comportement répugnant des suprémacistes blancs américains accusés de violences du week-end en Virginie. Et elle a dénoncé l'attentat qui a coûté la vie à une jeune femme, nous avons cité. La Chine met en application des nouvelles sanctions de l'ONU contre Pyongyang. Pékin a suspendu entièrement ses importations de fer, de plomb, de minerais et de produits de la mer en provenance de Corée du Nord. Les explications d'Eric Manirakiza.
Cette mesure entre en vigueur à partir de demain à minuit. Elle est censée priver Pyongyang d'un milliard de dollars de recettes annuelles. La résolution onusienne est en riposte aux tirs de missiles balistiques intercontinentaux. Parallèlement, Pékin prône un double moratoire. D'une part, l'arrêt simultané des essais nucléaires nord-coréens et d'autre part, les manœuvres militaires conjointes des États-Unis et de la Corée du Sud. Pékin veut également une résolution par le dialogue en référence au pourparlers à 6, interrompu depuis 2009, impliquant les deux Corées, la Chine, les États-Unis, le Japon et la Russie. Les tensions se sont aggravées à la suite des menaces du président Donald Trump promettant du feu et de la colère. En réponse, Pyongyang a rendu public un plan détaillé pour tirer 4 missiles près du territoire américain de Guam dans le Pacifique. Ces dernières déclarations font craindre le déclenchement d'un conflit de grande envergure.
L'Égypte a rouvert ce lundi sa frontière avec la bande de Gaza pour permettre aux fidèles musulmans de l'enclave palestinienne de se rendre au pèlerinage de la Mecque qui débute à la fin du mois. Le point de passage a été rouvert ce matin pour 4 jours et dans un seul sens pour 2500 pèlerins. Israël contrôle les entrées et sorties de la bande de Gaza qu'il maintient sous un blocus sévère depuis 2006. 12 civils ont été tués, 4 blessés dans l'explosion d'une bombe placée en bord d'une route dans le sud du Yémen. La bombe placée sur une route de la province de Dalé devait viser un véhicule militaire, mais a plutôt touché un véhicule civil. La province de Dalé est contrôlée par les forces gouvernementales. La guerre au Yémen a fait près de 8400 morts depuis mars 2015. Les civils qui fuient les derniers bastions du groupe État islamique en Syrie vivent dans des conditions terribles dans une dizaine de camps informels mal équipés, selon le Comité international de la Croix-Rouge. Les combats ont déplacé des dizaines de milliers de personnes, dont une grande partie a trouvé refuge dans des camps de fortune installés dans les provinces de Raqqa et de Hasaké. Et le sous-marin artisanal danois qui a fait naufrage la semaine dernière a été délibérément coulé. C'est ce qu'indique la police de Copenhague, qui reste sans nouvelles de la journaliste suédoise qui était à bord. Le propriétaire du submersible a été arrêté. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique dans la Minute Éco présentée par Jacques Aristide.
La Guinée équatoriale refuse toujours de supprimer l'obligation de visa pour les ressortissants des autres pays de la CEMAC, Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon et Tchad. Le Tchad vient d'accepter de le faire en vertu d'un accord sur la libre circulation adopté en 2013, déjà en vigueur dans la quinzaine de pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Au Nigeria, des centaines de manifestants ont occupé ce week-end une station pétrolière de Shell dans le sud-est du pays pour demander une meilleure redistribution de l'argent du pétrole. Les négociations n'ont rien donné hier. Shell a rejeté les accusations selon lesquelles le géant anglo-néerlandais néglige les communautés de la région, rappelant ses projets de bourses universitaires pour les jeunes et ses investissements à hauteur de plusieurs millions de naira. La guerre de la bière est déclarée en Côte d'Ivoire à coups de slogans publicitaires sur des enseignes géantes. L'arrivée du groupe néerlandais Heineken a brisé le monopole détenu depuis 60 ans par Solibra du groupe français Castel. Solibra prévoit d'investir 40 milliards de francs CFA sur la période 2017-2019 pour satisfaire ses clients. Les Ivoiriens sont de grands amateurs de bière, faisant de la brasserie un secteur en pleine croissance.
À présent, la page des sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Cristiano Ronaldo suspendu en Espagne.
Le madrilène a été suspendu 5 matchs suite à son exclusion controversée lors du match aller de Supercoupe d'Espagne par le Real à Barcelone. L'attaquant portugais, qui encourait jusqu'à 12 matchs d'absence, est suspendu une rencontre pour son exclusion, la 10e de sa carrière, et 4 autres pour avoir légèrement poussé l'arbitre en signe de désapprobation. Le buteur vedette du Real devrait ainsi rater, en plus du match retour mercredi au stade Santiago Bernabéu, les rencontres de championnat contre le Deportivo La Corogne, Valence, Levante et la Real Sociedad. On rappelle que sur le terrain hier, le Real a dominé le Barça au Camp Nou, 3-1.
Barrage de la Ligue des Champions.
Empêtré dans l'imbroglio autour du Brésilien Philippe Coutinho, convoité par le FC Barcelone, Liverpool se déplace demain à Hoffenheim en match aller des barrages de la Ligue des Champions. De son côté, le Sporting Portugal aura une tâche légèrement compliquée contre le JTU à Bucarest avec la difficulté d'un match retour en Roumanie. On rappelle que les 10 clubs vainqueurs de ces barrages de C1 rejoindront les 22 autres directement qualifiés en phase de poule, dont le tirage au sort aura lieu le 24 août à Monaco. Les perdants seront reversés en Ligue Europa.
On parle tennis et ça bouge au classement ATP.
L'Allemand Alexander Zverev continue son explosion fulgurante en atteignant la 7e place au classement ATP. Ce classement est toujours dominé par le Britannique Andy Murray, qui perdra sa première place de numéro 1 mondial en fin de semaine. Et le nouveau numéro 1 mondial s'appellera Rafael Nadal, puisque Roger Federer a déclaré forfait pour le prochain tournoi. Chez les dames, l'Ukrainienne Elina Svitolina a atteint son meilleur classement, 4e, après sa victoire à Toronto contre la Danoise Caroline Wozniacki. Les deux jeunes femmes se rapprochent doucement du siège de numéro 1, toujours occupé par la Tchèque Karolina Plíšková.
On termine par le cyclisme, retour à la maison pour Luis Menjes.
Oui, le Sud-Africain reviendra chez Dimension Data la saison prochaine, annonce aujourd'hui de l'équipe du World Tour. Le grimpeur âgé de 25 ans y avait fait ses débuts entre 2013 et 2015, avant de rejoindre l'Alhambra Mérida, devenu UAE Emirates cette année. Huitième du Tour de France en 2016 et 2017, Menchez pourrait atteindre le podium de l'une des grandes courses du World Tour. C'est ce qu'espère sa nouvelle équipe.
Merci Nico.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Le bilan de l'attaque terroriste perpétrée hier dans la soirée a été revu à la hausse et le bilan est maintenant de 18 morts. Les deux assaillants ont aussi été abattus. Les Burkinabés sont indignés, mais ils doivent surmonter cette épreuve, selon le président du Faso, Roch Kabore. Zoumana Wanogo, à Ouagadougou, pour VOA Afrique.
En ce lundi, lendemain de l'attaque terroriste qui a frappé Ouagadougou, le ministre de la Communication a fait le bilan. On écoute Rémi Dandinou, le ministre porte-parole du gouvernement.
Voilà la situation actuellement. Donc 18 victimes, 8 blessés que nous avons dénombrés. Nous avons également l'information de la neutralisation de 2 terroristes par nos forces de défense et de sécurité. Pour les blessés, il y a une évolution potentielle sur laquelle nous pouvons nous attendre.
Cette attaque est la deuxième du genre perpétrée sur les mêmes lieux, l'avenue Kwame Nkrumah. Nous avons rencontré le parqueur, autrement dit celui qui garde les véhicules automobiles et les motos. Il a vécu en direct l'attaque.
C'était devant moi, c'était des hommes. C'était des motos. Donc ils ont venu. Donc ils ont volé les motos. Moi, je ne voulais pas même. J'étais à côté de eux. Je ne voulais pas moto même pour les garer. En même temps qu'ils ont fait boum. Moi, ils ont levé maintenant pour aller à quoi. Ils ont commencé par le tirer maintenant. Même pas. Ils ont été en bourgeon. L'autre était un peu clair. Mais l'autre n'est pas trop clair. C'est un peu noir. En même temps qu'ils ont tiré, c'est pas un arbre. C'était un pistolet. Mais on avait dit. En même temps qu'il fait boum là, ça commence même pour le tirer.
Travaillant dans le bâtiment adjacent au restaurant Istanbul, Seydou Sempore reste toujours sous le choc.
Vraiment, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas comment qualifier ce genre d'action, mais c'est horrible. Tuer des gens à sang-froid, vraiment, c'est horrible, c'est terrible, c'est terrible. On reste là, on travaille souvent jusqu'à 20h, 21h, qu'on a beaucoup de dossiers. Quand on a appris effectivement que cette attaque hier, on s'est tout de suite dit, mais si c'était un jour ouvrable, et puis on pouvait être à côté, et puis on pouvait être victime aussi. Donc ça nous a choqués.
Que faire face à une telle situation? Les Burkinabés se confient.
Je ressens beaucoup de peur parce que ce qui nous arrive successivement là, ce qu'il faut faire, c'est que les forces de l'ordre doivent collaborer beaucoup avec la population. Que quand on sent une personne suspecte, qu'on puisse les dénoncer.
Le terrorisme là, c'est quelque chose qui prend de l'ampleur. Maintenant, il faut vraiment chercher des voies et moyens comment contrer ces gens d'attaque. Chaque fois, ils sont en train d'endeuiller la population, des familles. C'est pas intéressant. C'est qu'on peut faire. Non, c'est pas une personne, c'est pas deux personnes. Il faut l'ensemble, beaucoup de personnes, trouver une solution réellement et puis que ça soit vraiment rapidement vite fait.
Je sors par exemple le soir pour prendre un peu de lait et puis brusquement tu trouves des gens qui viennent t'agresser comme ça. Donc c'est pas facile. Là, moi je condamne ça. Si les civils se communiquent entre eux-mêmes avec les hommes de tenue, moi je pense qu'ils peuvent régler. C'est ça de terrorisme en tout cas éviter.
Le président du Faso, dans un tweet, tout en condamnant avec la dernière énergie l'attaque qualifié d'ignoble, a indiqué que le Burkina se relèvera de cette épreuve. Zoumana Wanogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Dans les rendez-vous de VOA Afrique ce lundi 14 août à 18h temps universel, à votre avis, votre émission interactive sera consacrée au thème de la menace terroriste sur le continent. À votre avis, comment venir à bout du terrorisme en Afrique? Les États africains ont-ils les moyens de l'éradiquer? D'où proviennent ces terroristes? Nous vous donnons la parole dans À votre avis. Vos commentaires et réactions sont attendus sur Facebook et en direct au 001 202 205 26 33. 001 202 205 26 33.
Au Mali, la plateforme Anté-Abana, touche pas à ma constitution, donne au président Ibrahim Boubacar Keïta jusqu'au 15 août 2017 pour retirer son projet de réforme constitutionnelle, faute de quoi elle se lancera dans une campagne de désobéissance civile. De Bamako, les précisions de Kassim Traoré.
Deux mois après avoir proposé la révision constitutionnelle, le président malien voit que son projet n'est pas consensuel. Ibeka a aussitôt initié des concertations avec les Maliens. L'objectif est d'avoir un texte consensuel.
Le consensus, l'apaisement, nous cherchons toujours à ce qu'une décision prise au nom de la nation, dans l'intérêt bien compris de la nation, soit partagée par cette nation-là, réunisse et ne divise. Nul ne peut aujourd'hui dire qu'il s'oppose à ce que le peuple malien exerce son droit. Dire aujourd'hui qu'il n'y aura pas de révision constitutionnelle n'est pas républicain et antinational.
Le président malien, qui n'a pas fini sa concertation, a rencontré plusieurs sensibilités, sauf la plateforme Inter-Abana, touche pas à ma constitution. Le seul groupe associatif et politique opposé à son projet, d'où le lancement d'un ultimatum. Tcheblin Dramé, membre de la plateforme Inter-Abana.
Nous considérons que l'ordre républicain est menacé quand le président de la République viole la Constitution. Et en violant la Constitution, il viole son serment. Parce que dans son serment, il jure devant Dieu et devant le peuple malien de respecter et de faire respecter la Constitution. Alors, en initiant une révision constitutionnelle qui viole l'article 118 de la Constitution, le chef de l'État viole son serment.
Les rebelles Touareg réunis au sein de la CEMA sont aussi opposés au projet présidentiel de révision constitutionnelle. Mais la CEMA ne veut pas être dans les camps de non ou de oui. Ilad Ag Mohamed, porte-parole de la CEMA.
Parce que nous, au bout du rouleau, nous cherchons un Mali unitaire dans lequel nous, on se retrouve. Mais dans cette forme actuelle aujourd'hui du oui ou non, la CEMA ne pense pas qu'il y aura un Mali unitaire. Donc on se réserve et on attend à ce qu'on revienne sur des meilleurs sentiments et qu'ensemble nous construisons ce qui peut être le Mali pour nous tous.
La campagne de désobéissance civile, pacifique et respectueuse de la loi qui sera lancée le 15 août 2017 n'est pas anticonstitutionnelle. Brahima Fomba, juriste, membre de la plateforme Inter-Abana.
La désobéissance civile, c'est quoi? C'est un régime juridique de revendication populaire dans lequel les citoyens ne reconnaissent plus les autorités de l'État. C'est un régime juridique dans lequel, y compris les lois de la République, les citoyens ne se sentent plus régis par les lois de la République. Donc, on ne reconnaît pas l'autorité.
Avec cette histoire d'ultimatum, les leaders religieux, les familles fondatrices et les chefs des quartiers sont entrés dans la danse. Ils demandent un sursis du projet de révision au président Ibeka, Dramane Niaré, patriarche de Niaré de Bamako.
C'est un but précis. On est venu demander au président par ce choix d'abord de référendum, de ne pas d'annuler de ce soir. Parce que c'est le seul responsable qui peut annuler. Nous, on ne décide rien. On lui demande. On fait une proposition. La décision finale, c'est lui. C'est lui le président. Il a le droit. Mais sinon, ce n'est inévitable. Parce qu'il y a l'accord international qu'on a signé. Il faut le mettre en application. C'est ce grandeur qu'on veut qu'il nous montre.
La balle est désormais dans le camp du président Ibeka. Il est le seul à pouvoir retirer ou sursoir au projet de révision constitutionnelle qui divise les Maliens. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
La République centrafricaine a marqué hier le 57e anniversaire de son indépendance. L'ONG Enough Project affirme dans un rapport que les populations civiles sont ciblées dans des affrontements entre 14 factions armées, des milices et des mercenaires étrangers. Jacques Aristide, adjoint à Bruxelles, Ruben de Koning, il est chercheur à Enough Project.
Une observation clé qu'on aimerait souligner, il ne s'agit pas d'un conflit essentiellement interethnique ou interreligieux, même si les groupes Seleka sont majoritairement musulmans et les groupes anti-Balaka sont majoritairement chrétiens. En fait, les objectifs sont beaucoup plus tangibles. Il s'agit de contrôle du territoire, des ressources naturelles. On voit maintenant que même les factions les plus puissantes du côté Seleka et anti-Balaka, qu'on croyait opposées, ont souvent collaboré en fait afin de prolonger le conflit. Ensemble, ils attaquent des ennemis en commun. Ils cherchent à continuer la crise pour étendre leur rayon d'opération, le territoire qu'ils contrôlent, pour justement renforcer leur position de négociation vis-à-vis le gouvernement.
Mais que font le gouvernement et son armée? Demeurent-ils impuissants face à cette situation?
Jusqu'ici, la capacité d'agir des forces armées centrafricaines est encore très faible, mais c'est aussi parce qu'on a encore un long chemin à faire avant qu'on peut renforcer les capacités de cette force, vu le manque d'organisation et de vérification aussi des militaires, avant qu'on puisse avancer dans le renforcement de la capacité des forces armées, qu'ils n'ont pas participé à des exactions dans le passé. La communauté internationale a mis son accord d'appuyer justement une réinsertion des membres des groupes armés qui sont vérifiés dans les rangs de Fatah. Parmi les groupes armés, il y a des militaires de profession. Et donc, il faut leur donner aussi l'opportunité de contribuer à le rétablissement de pouvoir de l'État.
Que propose l'INOF Project pour résoudre la crise?
On craint un peu qu'avec les accords de paix actuellement, que si les demandes de sanctions contre certains individus, une réinsertion sans question des leaders des groupes armés, si on suit cette logique, ça pourrait donner une récompense en fait à des stratégies violentes, tout en encourageant des autres groupes qui ne sont pas encore accommodés de même façon de poursuivre les mêmes stratégies. Donc au lieu de faciliter une telle récompense, on veut que la communauté internationale doit augmenter la pression sur ceux qui gâchent la paix, particulièrement les individus récemment sanctionnés par l'ONU et les États-Unis. Et je crois qu'à part la pression militaire, elle doit mettre en œuvre ces sanctions. Elle doit geler des comptes bancaires de ces individus, exposer le réseau commercial dans lequel ils opèrent et aussi soumettre des entreprises identifiées également à des sanctions. Il faut justement nuire leur capacité de mener la guerre pour qu'ils se conforment véritablement à des engagements comme des cessez-le-feu dans les accords.
C'était Ruben de Koning, chercheur à INAF Project, joint à Bruxelles.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Branle-bas au Cameroun pour maintenir l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019 dans le pays. Le président du Cameroun est même sorti de sa réserve habituelle pour rassurer le public. Le point avec notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Jultap.
Le 10 août dernier, face aux athlètes camerounais médaillés de diverses compétitions internationales, courant 2017, Paul Biya a lâché ces quelques mots.
Le Cameroun sera prêt le jour dit. J'en prends l'engagement.
Le jour d'après, un comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 a été créé par décret présidentiel. Au cours de la même semaine, l'attribution des marchés de réhabilitation et de construction des infrastructures sportives et hôtelières a été accélérée, notamment pour Garoua, l'un des sites de la compétition au nord du Cameroun. Le tout s'est fait, citation, sur très haut accord du président de la République. À Olembe, banlieue où se construit le deuxième stade de Yaoundé, 60 000 places, le balai des camions se fait désormais à un rythme effréné. Toutefois, les visiteurs du site d'Olembe sont surpris par l'état d'avancement des travaux, à l'instar de ce jeune vacancier à Yaoundé.
Je savais que j'allais venir prouver qu'il y a quand même quelque chose d'implanté, mais j'ai été très surpris que je viens, je trouve encore la terre rouge. Donc j'étais vraiment déçu.
L'opinion publique, quant à elle, n'a pas été en marge de ce branle-bas.
Le président de la CAF ne peut pas faire une sortie comme celle-là, alors que la première mission de son règne n'est pas encore arrivée au Cameroun. Tout ce qu'il a dit, je trouve ça un peu léger.
La sortie du président de la CAF, ça a été même une insulte vis-à-vis du Cameroun. Et je crois qu'il serait de bon ton qu'il puisse s'excuser vis-à-vis du peuple camerounais.
La Fédération camerounaise de football est elle aussi montée au créneau et insiste désormais sur la violation du règlement des compétitions par la CAF. Dr Francis Veigne, membre du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football.
Le comité exécutif de la CAF peut apporter des modifications au règlement pour les éditions à venir de la compétition. 2019 et 2021 ne sont pas concernés parce que ce cahier des charges dit qu'il peut être modifié pour les éditions à venir.
Le 20 août prochain est attendu au Cameroun la visite d'inspection de la CAF composée des experts et d'un cabinet d'audit qui va évaluer si l'organisation de la CAN 2019 sera encore maintenue. au Cameroun ou pas. Emmanuel Jontap, Yaoundé, VOA Afrique.
Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Gisèle Morissin et à John Dryden. Présentation Abdourahman Dia. On reste en contact sur notre page Facebook pour l'actualité 24h/24, également sur notre site internet voafrique.com. Dans un instant, un point sur l'actualité avec Henri Francis. Au revoir.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.